Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende urbaine qui a la peau dure, l'existence des cimetières d'éléphants, ce lieu mystérieux et mystique où les animaux se regrouperaient pour rendre leur dernier souffle. J'aurai ensuite le plaisir d'interviewer Aurélie Calmet, naturaliste de formation et dessinatrice, qui croque la vie sauvage de ses pinceaux affûtés. Merci Aurélie d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Allez, hop, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Les cimetières d'éléphants. Ce mythe apparu au XIXe siècle, alimenté par les explorateurs européens visitant l'Afrique, a toujours la peau dure. Repris à toutes les sauces, on le retrouve dans diverses productions de pop culture plus ou moins récentes. Dans une nouvelle de Rudyard Kipling, dans des productions hollywoodiennes comme dans Tarzan et sa compagne, un film de 1934, où un chasseur très mal intentionné blesse mortellement un éléphant pour le suivre et faire main basse sur l'ivoire de ses congénères défunts. Plus récemment, on peut aussi penser au célébrissime film Le Roi Lion des studios Disney, où Simba et Nala, deux lionceaux aventureux, explorent ce lieu inquiétant avant d'être pris en chasse par des hyènes affamées. Mais qu'en est-il en réalité ? Il semblerait que les explorateurs européens et les chasseurs d'ivoire étaient très intrigués de ne pas trouver de carcasses d'éléphants. Il est souvent rapporté que le docteur David Livingstone aurait participé à diffuser ces drôles d'idées. En fait, il s'avère que des ossements d'éléphants entassés au même endroit ont bel et bien été découverts par la suite, mais ils ne résulteraient pas de la volonté des pachydermes de se créer une sépulture. Plusieurs hypothèses existent à l'heure actuelle pour expliquer ce phénomène. Laissez-moi vous en faire part. L'une des explications les plus contemporaines et les plus malheureuses serait que cette accumulation de carcasses serait le résultat de massacres perpétrés par des braconniers. Il faut savoir qu'au milieu des années 1800, en pleine période coloniale, Livingstone lui-même estimait que 44 000 éléphants étaient tués chaque année pour subvenir à la demande en ivoire du Royaume-Uni. D'autres découvertes vont dans ce sens. On a ainsi mis au jour sur un site de Saxe-Anhalt, en Allemagne, 27 squelettes d'une espèce d'éléphant aujourd'hui disparue, tous privés de leur précieuse défense. Comme quoi, la chasse à ivoire n'est pas un mal uniquement contemporain. L'autre explication avancée concerne les marécages et leur boue. Tout d'abord, il faut savoir que les éléphants peuvent vivre très vieux s'ils ont la chance d'éviter les fusils des braconniers, parfois 60 ans et plus. Or, ils ont comme nous un set de dents limité. 6 renouvellements de leurs molaires sont possibles. Mais une fois arrivés à la fin du stock de quenottes, les vieux éléphants doivent survivre avec des dents usées, ce qui rend la mastication des centaines de kilos de végétation qu'ils doivent ingurgiter par jour très difficile. Il a donc été supposé que ces animaux affaiblis cherchaient à trouver une nourriture plus tendre et plus facile à mastiquer près des zones humides. On peut alors penser qu'il est difficile pour eux de glisser, enfin il est facile pour eux de glisser, s'embourber et de ne pas réussir à sortir de ces grandes étendues piégeuses. Une autre hypothèse avance que les vieux éléphants pourraient chercher à soulager leurs articulations douloureuses dans les bourbiers, comme certains pourraient le faire avec l'argile lors d'une cure thermale. La dernière hypothèse serait que les pachydermes s'embourberaient lors des zones de sécheresse en traversant ces endroits dangereux pour chercher de l'eau. Le résultat reste le même pour ces trois dernières alternatives. Les animaux disparaissaient dans les marécages et leurs squelettes ne refont surface que bien plus tard. Mais une autre question peut alors émerger. Les éléphants ont-ils conscience de la mort ? Ce sont des animaux sociaux, extrêmement intelligents, capables de se reconnaître dans un miroir, de se réconcilier et de se rassurer mutuellement. On est tout à fait en droit de se poser la question. Surtout que l'on a pu observer à plusieurs reprises des éléphants touchés, manipulés, inspecter des ossements de congénères décédés, comme cela a été reporté par la scientifique Cynthia Moss en 1988 au parc d'Amboseli au Kenya. Plus récemment, une étude parue en 2006 dans le journal Biology Letters par Karen McComb et son équipe démontrait dans une expérience contrôlée en milieu naturel que les éléphants montraient un intérêt tout particulier pour les os de leurs congénères, par rapport à d'autres objets de différentes natures. Les scientifiques ont présenté à plusieurs familles d'éléphants sauvages trois objets différents en simultané. Dans la première expérience, on leur présenta un crâne d'éléphant, un morceau de défense d'ivoire et un morceau de bois. Dans la seconde, ils avaient le choix entre trois crânes, un d'éléphant, un de buffle et un de rhinocéros. Et dans la dernière expérience, trois groupes qui avaient perdu leur matriarche, leur femelle dominante, ont été exposés au crâne de cet individu et au crâne de deux autres matriarches de groupes différents du leur. Les scientifiques ont alors mesuré le temps passé sur chaque objet à le manipuler, le sentir, pour déterminer le niveau d'intérêt des éléphants étudiés. Pour le premier test, les animaux étaient significativement plus intéressés par l'ivoire que par les deux autres objets, même le crâne, ce qui peut paraître surprenant. Mais ils interagissaient tout de même plus avec le crâne qu'avec le morceau de bois. Pour le second test, ils s'intéressaient beaucoup plus au crâne d'éléphant qu'au crâne de buffle et de rhinocéros. Et pour la dernière expérience, il n'y avait pas de différence. Les animaux montraient autant d'intérêt pour le crâne de la matriarche de leur propre famille que pour le crâne de la matriarche de l'autre groupe. L'étude permet bien de conclure que les animaux sont spécifiquement attirés par des os et par la défense d'individus de leur espèce, mais rien ne nous permet de savoir avec certitude s'ils reconnaissent les ossements d'un membre de leur famille. Il est possible que les défenses soient utilisées lors de contacts sociaux, ce qui expliquerait pourquoi les animaux passent plus de temps à les examiner. Cependant, rien ne nous permet d'affirmer qu'ils viennent visiter leur mort comme cela a pu être suggéré même du temps de ce cher Livingstone. Le mystère reste entier, et les éléphants gardent leur secret. Mais maintenant vous le saurez, défense de parler de cimetière d'éléphants. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mon micro Aurélie Calmet, dessinatrice, qui a pris part à plusieurs expéditions dans des contrées reculées pour mettre en image le vivant foisonnant autour d'elle. Merci beaucoup Aurélie d'être là avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci.
Alors pour commencer, moi j'ai plein de questions. J'aimerais savoir comment vous en êtes venue au dessin naturaliste d'observation. Quel a été votre parcours ?
Alors c'est pas un parcours très direct, on va dire. disons que depuis petite, j'aime dessiner et j'aime être dehors, tout simplement. Mais c'était des choses tout à fait personnelles. Et voilà, j'ai fait plusieurs autres métiers avant et puis j'ai fait une formation, un BTS en gestion protection de l'environnement.
Donc et il y avait quand même déjà un intérêt pour la nature, certain.
Voilà. Mais pas tout de suite, je l'ai fait en formation adulte, un petit peu après un autre parcours. Et puis, j'aimais beaucoup dessiner, donc je faisais déjà aussi du terrain, c'est-à-dire je partais toute seule faire des observations, des affûts pour moi, pour être dehors, tout simplement. Voilà, trouver la compatibilité entre dessiner, ce qui est statique, et puis bouger.
Donc, ce qui n'est pas évident.
Donc le terrain, voilà. Et du coup, je l'ai relié à mes études, à ma formation, et puis j'ai travaillé essentiellement sur des outils pédagogiques, du coup. Et puis le dessin comme outil de sensibilisation auprès des enfants. Et voilà. Et puis petit à petit, c'est devenu mon travail uniquement, quoi.
Et comment est-ce que vous êtes partie pour la première fois en expédition ? Comment ça s'est fait, votre première étape pour passer du dessin au dessin en expédition naturaliste ?
Alors, c'est assez épique, en fait. Hein. Vraiment, c'était de l'ordre du rêve impossible, quoi. On a des rêves, on dit on va se battre pour y arriver. Puis ça, je me suis dit, bon, je suis une femme, je suis pas née au 19e, a priori, pour accompagner une expédition scientifique d'exploration de nos jours. Bon, mais ça restait un joli rêve. Et c'est grâce au Festival Terre d'ailleurs, qui a lieu à Toulouse, là, porté par l'association Délire d'encre, qui c'est le premier auquel j'ai participé, parce que j'habite pas très loin, j'avais des carnets de terrain personnels à présenter. Sur les lagnons blancs, par exemple. D'accord. Voilà, plusieurs espèces du coin. Et je suis arrivée là, un peu, de mon Aveyron, avec des grands yeux au milieu de ce beau muséum. Et j'ai découvert que ça se faisait encore, les grandes expéditions scientifiques. Et notamment, j'ai eu un tout petit créneau, parce que je tenais un stand, etc. Et pour voir un film, donc je suis allée voir le film qu'il y avait dans ce créneau-là. Et c'était un film sur une expédition à Madagascar. D'accord. De Everard Vandenbaum. Avec qui je suis partie donc par la suite.
Donc
je l'ai rencontré.
Nature Évolution,
ouais.
Tout à fait.
Voilà. Et donc je découvre ça, que ça existe encore. Je trouve ça génial. J'en parle avec lui et d'autres. Pas plus. Et un an plus tard, je reçois un coup de fil d'Evrard qui me dit voilà, je monte une expédition dans le massif du Matarambéo. Je ne sais pas où c'est, au Sulawesi, je ne savais toujours pas, en Indonésie, ça va, je situe, voilà, et c'est dans 10 jours, ok, Donc, j'ai deux enfants, hein, faut savoir. J'avais pas de passeport valide. Bref, ça s'est fait. Je ne sais pas trop comment. J'ai reçu mon passeport la veille du départ.
C'est un signe.
On ne sait toujours pas comment c'est possible en 10 jours. Mais voilà. Et je suis partie un mois là-bas. Bien morte de trouille tout le trajet.
J'imagine.
Et puis, bon, après, sur place, j'ai réalisé que vraiment, ça me correspondait bien. Et je suis repartie, du coup, encore deux fois avec cette ONG. J'ai eu cette chance-là. Donc, au Groenland en 2016,
d'accord,
pendant 2 mois.
Donc, des conditions et un temps et des températures.
Voilà, c'était en été, hein, c'était en été, toujours comme dessinatrice. Et puis, en 2017, 6 semaines dans le massif du Makai, à Madagascar. Voilà.
Donc, des sacrées aventures.
Voilà, une grande, grande chance. Ce n'est pas du tout l'essentiel de mon travail, mais c'est une grande chance pour aller voir par soi-même, voir les équipes travailler avec des scientifiques.
Puis c'est des très grandes équipes, souvent. Enfin, par exemple, le Makai, en tout cas, il y a
oui,
plein
voilà.
de gens
Alors,
différents.
Ça dépend. Voilà, les trois expéditions sont assez différentes, en fait. Et celle du Makai était particulière dans le sens où, oui, on était très nombreux. Il y avait beaucoup d'éco-volontaires aussi.
D'accord.
Le massif du Makai, c'est le lieu sur lequel l'ONG travaille depuis le plus longtemps. C'est ce qui a enclenché la création même de l'ONG.
D'accord.
C'est la découverte de ce massif-là. Enfin, c'est quand Ivrard l'a découvert, pour lui, hein.
Oui.
C'est pas lui qui l'a découvert, on est d'accord. Et qu'il a décidé de faire quelque chose pour ce lieu qui partait en fumée. Et du coup, l'ONG maintenant se penche sur plusieurs sites de ce type-là. Mais là, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur le massif du Makai. Et donc là, il y avait une équipe documentaire, il y avait beaucoup d'éco-volontaires, parce que c'est une part de l'activité de l'ONG qui est importante, d'amener les gens qui veulent sur le terrain et apporter un coup de main, découvrir et tout ça.
Non, c'est une super
voilà.
démarche.
Sur les autres, on était beaucoup plus petit groupe, on était une quinzaine maximum.
D'accord, mais il y avait aussi des
éco-volontaires. Non, pas du tout. Non. C'était plus, on bougeait beaucoup plus, voilà. C'était un peu plus engagé et plus mobile, voilà. Donc scientifiques, juste, et gens de terrain, quoi, logistique.
Mais moi, justement, en fait, je vous ai découverte grâce à une vidéo YouTube qui a été tournée pendant cette expédition par
oui.
Léo Grasset de la
oui.
chaîne Dirty Biology, qui s'appelait Une science pour protéger la nature.
Oui.
Et on vous voit sangler, accroché au tronc d'un arbre, suspendu à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Donc moi, je me demande, dans ces conditions-là, en fait, c'est simple de dessiner ? Comment ça se passe ?
Alors, je ne sais pas, moi, j'aime bien ça. J'aime bien dessiner dans des conditions... pas habituel parce que ça amène quelque chose au dessin qui n'arrive pas quand on est assis sur une chaise derrière un bureau. Et puis j'aime bien être dehors, ce que je disais tout à l'heure. Donc bon, là j'étais pas à plusieurs dizaines de mètres, hein. sur cette vidéo là j'étais à une quinzaine, voilà. C'était 15 mètres et c'était le premier coup, voilà. Donc c'était pas le meilleur agencement possible, mais du coup on a bien ri. Voilà, j'étais en train de dessiner des fougères, il me semble. Mais ouais, dessiner dans ces conditions-là, du coup, ça peut être dans un kayak ou dans un arbre ou en paroi.
Plein de falaises.
Voilà. c'est. Ou enfin, souvent debout ou dans des postures un peu rocambolesques. Moi, ça me plaît. Après, c'est pas une histoire de soit facile ou pas. Moi, ça me paraît pas compliqué parce que ça me plaît. Après, je ne sais pas si ça convient à tout le monde, mais voilà, moi ça me convient beaucoup.
Et moi, je me demandais au niveau des affûts, en fait, comment ça se passe avec ces animaux-là pour quand on est à flanc de falaise ou en haut d'une forêt pour réussir à les voir sans les effrayer.
Eh bien, alors là, si on parle sur les expéditions, parce que c'est assez différent. Quand je suis en France et tout ça, je pars toute seule et c'est beaucoup plus simple parce que je choisis quand je pars, je choisis le temps que j'y passe, où je me place. Là, on est en équipe, donc chacun doit composer avec les actions et le travail des autres.
Les nuisances sonores aussi.
voilà, moi, c'était un petit peu mon gros souci au départ. Il m'a fallu, sur la dernière, sur Madagascar, vraiment, voilà, j'avais l'expérience des deux précédentes. Donc, j'ai trouvé ma place sans trop m'agacer et sans trop de frustration, on va dire. Mais là, en l'occurrence, au niveau des arbres, on a fait plusieurs affûts. Donc, on installe l'affût. Le mieux, c'est de l'installer quelques jours avant. C'est-à-dire que sans y retourner, on l'installe, on s'en va, on laisse, que les animaux s'habituent. Et après, y aller, s'y installer encore de nuit. donc avant le lever du jour. Comme ça, quand tout le monde se réveille, quand tout le monde commence à faire son petit, ses petites affaires, on est déjà installé, on ne bouge pas, ça ne bouge pas. Mmh. Et du coup, il y a des regards de curiosité, mais après, ça dépend beaucoup si c'est une zone où les animaux sont chassés ou pas. Ouais. Ça, vraiment, ça va influencer énormément sur le comportement.
C'était le cas, par exemple, dans le Macaï ou...
Là, oui, oui. Ouais. Là, c'est quand même... Il y a du braconnage. Mm. C'est des zones où il y a du braconnage, ce qui n'était pas le cas dans d'autres lieux.
Au Groenland, par exemple, c'était moins le cas
Alors, ça dépend pour quels animaux. Mais nous, dans le coin où on était, il y avait de la chasse quand même. Donc, voilà.
Surtout les mammifères, non? Les oiseaux aussi?
Ouais, non, les oiseaux, ça va. Ils n'étaient pas très... Non, puis surtout qu'ils sont... Enfin, ils sont migrateurs, ils sont... Non, mais... non, au niveau des bœufs musqués, par exemple, c'était pas... Ouais, c'est au niveau des renards arctiques, par exemple. Ouais, là, ils fuyaient. Ouais. Alors qu'à certains endroits, on m'a dit qu'ils n'étaient pas du tout effrayés. Là, ils sont pas... Moi, pour le... Ouais, c'était un peu galère. Moi, j'ai eu un peu de mal à les avoir. Je les ai eus, mais j'ai un peu de mal.
Fallait attendre longtemps avec...
c'était même plus de la chance, parce que comme on se déplaçait beaucoup, je n'avais pas le temps de bien capter leur déplacement, leur façon de fonctionner. Donc voilà, soit je les voyais, on était en train de marcher, donc je ne pouvais pas dessiner. Je m'étais un peu fait à l'idée. Et puis une fois, ça a été le coup de bol en dessinant une famille de plongeons, un brun.
Avec les yeux rouges et puis
sublime. Donc une petite famille qui était dans les petits étangs de toundra, et les parents vont pêcher dans les fjords. Et les poussins qui étaient encore des grosses peluches marrons parce qu'ils ne pouvaient pas voler encore. Donc, quand les parents ne sont pas là, se mettent au centre de l'étang. Et moi, j'étais allée me placer avec ma lunette. J'ai jumelles et lunettes pour travailler de loin. Comme ça, je n'ai pas d'influence sur le comportement.
Oui, c'est ça, pour ne pas agir.
Et du coup, pendant que j'étais en train de m'installer, ben, y avait un jeune renard arctique qui aurait bien croqué
un
petit plongeon et qui est passé sur la rive en face, et j'ai pu la voir. Je l'ai eu en visu 25 secondes,
ouais, 25-30
secondes. Voilà. Mais là, du coup, je fais que l'observer. Mm. Parce que si je baisse les yeux, je perds. Donc je fais que l'observer. Après, c'est une habitude, en fait. Hein. On enregistre le maximum de choses. Et dès qu'il a disparu, je dessine tout ce que j'ai retenu. Quoi.
D'accord. Voilà. Il n'y a pas du tout de risque de tomber sur des animaux qui peuvent être agressifs. Là, vous parliez des bœufs musqués, c'est des animaux quand même assez impressionnants et qui peuvent avoir des réactions surprenantes.
Oui, alors là, pour le Groenland, on avait des fusils, c'était obligé. Donc on a eu une petite formation pour voir ceux qui pouvaient partir tout seuls, donc qui étaient à l'aise avec un fusil, et ceux qui n'étaient pas à l'aise ne pouvaient pas partir tout seuls. Après, il y avait tout un protocole, c'est vraiment en cas de grand danger.
Et de danger.
Donc c'était au niveau des ours polaires et des bœufs musqués.
C'est vrai qu'il y a aussi des ours polaires.
Oui, voilà. Et donc du coup, on faisait des tours de garde de la nuit pour surveiller tout ça. Voilà. Il y avait tout un protocole. Vraiment pour effrayer avant, etc. Enfin, mais ils étaient là, il y avait des empreintes, il y en a un qui avait été tué quelque temps avant dans un camp d'une famille de chasseurs qui était en face. Voilà.
D'accord.
Donc, ça faisait partie du
oui,
truc.
Oui, bien sûr, hein, s'il y a un danger imminent.
Voilà.
Ne bougez pas, on vous offre une courte évasion musicale, on se retrouve tout de suite sur Campus FM. C'était Bossa de Ahmed Malek, extrait d'une des compilations Habibi Funk. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nitpi. Et nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Calmet, dessinatrice, qui croque la vie du dehors lors d'expéditions naturalistes, mais pas que. Donc tout à l'heure, nous évoquions les expéditions naturalistes auxquelles vous aviez pris part. Oui. Et moi, je me demandais au niveau des techniques, du matériel que vous utilisez, en quoi est-ce que la logistique de l'expédition peut influencer vos choix, en fait?
Eh bien, sur la première expédition en Indonésie, j'ai essayé de prendre un petit panel parce que j'avais jamais fait ça, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir utiliser. Et puis au final, le fait de... Déjà, ce sont des expéditions au cours desquelles, à part sur Makai, mais les deux précédentes, on porte tout notre matériel, plus le matériel commun. Donc vraiment,
la tente,
tout,
les duvets,
tout. Donc là, vraiment, c'est-à-dire ce que je prends avec moi, c'est ce que je vais porter pendant tout le temps d'expédition. Donc vraiment,
faut
aller vraiment à l'essentiel. Donc pour moi, là, c'est posé devant nous, c'est pas très radiophonique, mais il y a une petite boîte d'aquarelle, un chiffon, des critériums avec des mines pour pas faire de déchets, pour pas avoir à tailler, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une bestiole qui passe, évidemment.
Rapide, ouais.
Voilà. Des pinceaux à réservoir et des pinceaux aussi traditionnels, parce que j'y reviens. Et le plus lourd, c'est les carnets. Donc il faut bien calculer, estimer à peu près le nombre de carnets qu'on va utiliser. Donc c'est des carnets format A5 et A4. Voilà.
Donc avec du bon papier aquarelle, un peu épais.
Ben voilà, j'en ai testé qui soit bien costaud, qui supporte bien soit l'humidité, soit... Après, tout est en sac étanche,
d'accord,
tout le temps. Mais donc, ils sont déjà tombés à l'eau. On voit qu'ils ont vécu, quoi. Ils sont pas ménagés. Mais j'en ai essayé, j'ai trouvé ce qui tenait bien le coup. Et maintenant, je prends vraiment toujours le même matériel parce que c'est celui qui m'a jamais lâché, quoi.
Qui est toujours là.
Voilà.
Et donc, vos dessins, ils servent pour des supports à la fois d'exposition, des articles publiés dans la presse, dans des livres.
Mmh.
Qu'est-ce qui rend le dessin plus accessible qu'une photo, par exemple? Qu'est-ce qu'il apporte de plus?
Alors, pour moi, ça ne va pas être plus, ça va être complémentaire, en fait. C'est totalement complémentaire.
Approches.
C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, quand on fait des projections, qu'on parle de notre travail, pourquoi le dessin de nos jours, quoi, avec le numérique, avec la vidéo, etc. C'est complémentaire et surtout, ça a une grande action au niveau sensibilisation. Ça touche vraiment les gens, ça raconte les choses autrement. Ça, c'est pour la partie sensibilisation. Mmh. Et puis, plus on va avoir de supports d'informations, c'est-à-dire photos, vidéos, dessins, sons, plus on va toucher un large public. Et ça, c'est quand même l'objectif, c'est d'informer, de sensibiliser, de faire de la médiation scientifique, etc. Donc voilà, plus on a d'outils, plus on peut communiquer de façon variée. Et puis, au niveau naturaliste pur, il suffit de regarder les guides les guides d'identification, c'est que du dessin.
Ouais.
Parce qu'en dessin, on va pouvoir mettre en avant les particularités de l'espèce.
Les détails qu'on peut pas voir avec une photo, par exemple.
Voilà. Ça va être plus compliqué, surtout sur de l'animal vivant, d'avoir l'attitude qu'on attend. C'est déjà, il faut la voir, la photo de l'animal, et en plus, il faut qu'elle soit de bonne qualité et en plus qu'elle montre, qu'elle mette en avant ce de quoi on veut parler.
Parce que le dessin, en fait, il doit à la fois être fidèle au modèle, mais l'idée aussi, c'est, j'imagine, de retranscrire le comportement que fait l'animal de son vivant, ce qu'on ne peut peut-être pas avoir.
Voilà. Alors après, ça dépend de la finalité.
Ouais.
Si c'est de la finalité purement morphologique, l'attitude importe peu. Même ça va être une attitude très académique, justement, qui va mettre en avant certaines caractéristiques.
D'accord.
Et sinon, ce qui est intéressant dans les croquis de terrain, pour la plupart, ils sont difficilement très détaillés. Ça dépend vraiment de l'espèce et tout ça, mais ça va être plutôt de l'attitude.
Ouais.
Mais ça va me permettre, même si plus tard je m'en sers comme support d'information pour un dessin naturaliste, que mon attitude soit juste.
Ouais.
Même si c'est très détaillé, que ça ne se fasse pas trop au statut, quoi. Ce qui est des fois l'inconvénient quand on n'a pas vu évoluer l'animal et qu'on le dessine malgré tout.
Donc on parle beaucoup d'animaux et de plantes depuis le début de cette émission, c'est normal, c'est le thème, mais vous avez participé à d'autres projets, autres que du dessin naturaliste?
Oui, alors petit à petit, j'ai commencé par ça parce que c'est ma porte d'entrée, mon réseau, et c'est ce dans quoi j'étais compétente au départ uniquement. Et puis, petit à petit, les hommes font aussi partie
du monde animal.
Du monde animal, on vit un peu tous ensemble. Donc j'ai participé, j'ai fait un reportage dessiné pour Terre de Liens, sur l'installation d'agriculteurs en bio sur plusieurs numéros pour un magazine qui s'appelle Village d'initiative rurale. Mm-hmm. Donc, où je partais, je dessinais sur place tout ce qui se passait. Donc après, le principe reste le même, c'est du dessin d'observation, au final, voilà.
Sauf que les sujets sont peut-être
plus non, là, il y avait des brebis, des petits agneaux qui étaient bien vifs.
Les agriculteurs, ils étaient d'accord de se faire croquer, pas de soucis, ils étaient pas mal à l'aise.
Oui, pas du tout, mais en fait, le dessin met beaucoup moins mal à l'aise qu'un objectif, parce qu'on a un crayon et du papier, et on regarde directement, il n'y a pas, Il n'y a pas un objet, un gros objectif entre les deux. On se regarde, on peut papoter. Moi, je discute en même temps. Je file un coup de main, je reprends mon dessin. Je pose mes carnets. Il n'y a pas de problème de logistique. J'ai mon petit sac avec mon carnet et mon crayon de papier. Et yahoo, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un store. C'est même plutôt... Il y a un vrai capital sympathie avec le dessin, quand même. C'est plutôt,
ça peut limite être plus simple.
Oui, dans certains cas, ça favorise, voilà. Donc j'ai fait ce travail-là, et puis j'ai également travaillé cette année avec le CEIS, c'est le Comité d'études et d'information pour l'insertion sociale de Cahors, où là j'ai travaillé avec des personnes au cours d'ateliers en situation de demande d'asile, et nous avons créé ensemble, c'est-à-dire avec les intervenants de la structure, moi-même et des personnes en situation de demande d'asile, une exposition qui est disponible pour les médiathèques, les collectivités locales, les lycées, enfin toute structure qui souhaite travailler sur cette thématique qui est quand même très importante en ce moment. On a tous dessiné et là je faisais et du dessin de ce qui se passait dans les ateliers. Et j'ai appris que ça s'appelait comme ça, de l'aide au récit, je sais pas trop. D'accord. En fait, je dessine ce qu'on me racontait. Ceux qui ne souhaitaient pas dessiner, qui n'avaient pas envie, ou tout simplement qui n'avaient jamais dessiné, ils me racontent et je dessine au fur et à mesure. Et ils me disent si ça va ou pas.
D'accord.
Donc ça permet d'aller au plus juste. Enfin, voilà,
leur récit comme de leur arrivée en France ou de leur
quotidien. Oui, ça dépendait. En fait, l'exposition, elle est découpée en... Tout a été décidé collectivement ensemble.
D'accord.
Donc elle se découpe en 5 étapes. Donc on a illustré les 5 étapes tous ensemble.
Okay.
Voilà, ça dépendait de la thématique. Et donc, elle est disponible, elle est finalisée. Donc, il faut prendre contact avec le CEIS de Cahors pour se la procurer. Elle peut être en extérieur et en intérieur. Et eux-mêmes peuvent intervenir pour aller plus loin.
Donc,
c'est un super outil qui est vraiment accessible, qui est dans le coin. Donc, il ne faut pas hésiter.
Parfait. Et pour conclure, moi, j'avais une dernière question sur... parce que par exemple au Festival Terre d'ailleurs vous animez des initiations au dessin naturaliste, vous faites pas mal de choses dans la transmission, dans la pédagogie. Donc moi je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que ça vous apporte cette transmission de l'outil du dessin.
Depuis quelques temps maintenant, je propose des ateliers ou des stages, mais surtout j'interviens sur des TP de dessin d'observation à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, avec les licences sciences de l'environnement.
D'accord.
Et on les prend, donc la plupart n'ont jamais dessiné, et on part la journée dehors dessiner des oiseaux. On va au domaine des oiseaux de Mazères. Et la plupart sont vraiment étonnés de l'outil. Et là, c'est vraiment... On travaille sur l'outil. Le dessin, c'est le moyen de... C'est pas la finalité. La finalité, c'est pas de faire un beau dessin. C'est de faire de la prise de notes dessinée. Parce que c'est ce que je fais aussi la plupart du temps. Et c'est un vrai... Ça nourrit un regard, une observation qui est vraiment particulière au dessin. C'est-à-dire, on va pas regarder de la même façon si on fait une photo, là, pour le coup, que si on fait un dessin.
Ça aiguise l'œil pour des naturalistes.
Ça nourrit la réflexion scientifique. Ça nourrit énormément la réflexion scientifique, entre autres.
Donc le dessin est très loin d'être un outil désuet et on espère qu'il continuera à être largement utilisé.
Et surtout hyper abordable, quoi.
C'est ça. Donc, Juste quelques pinceaux, du papier, voilà. Tout est possible. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, pour conclure, je voulais vous dire qu'on peut retrouver vos illustrations dans un ouvrage dont nous reparlerons très bientôt, ici sur le Nid de Pie, qui est intitulé « Dessement des Pyrénées », paru aux éditions du Dessement Masqué, écrit par Frédéric Blanc et Mélanie Nemoz, et illustré donc à l'aide des dessins d'Aurélie et des photos de Luca Santucci. Alors, comme on le disait, vos illustrations accompagnent aussi deux expositions qu'on peut voir en ce moment. La première, qui est créée par Barbara Rétoré et Julien Chapuis de Nat Explorer, que nous avions reçu lors de la précédente émission du Nid de Pie, donc sur le massif du Macaï.
Voilà.
Et la seconde, donc, dont vous parliez tout à l'heure, qui évoque la demande d'asile, donc, qui a été faite à Cahors, mais que l'on peut exporter
voilà,
partout.
Qui est disponible, voilà, qui est mise à disposition par le CIS de Cahors.
Donc pareil, on vous mettra toutes les informations sur le podcast de l'émission. Pour conclure cette émission, je voulais vous conseiller un ouvrage qui explore l'histoire de l'illustration naturaliste et vous fait voyager avec les plus grands découvreurs, aventuriers et exploratrices de leur temps. Du rhinocéros asiatique caparaçonné, dessiné par Albrecht Dürer, reproduit pendant des décennies dans toute l'Europe alors que son auteur n'avait jamais vu la bête en vrai, aux planches d'oiseaux colorés de James Audubon, Jean-Jacques pour les intimes, en passant par les femmes naturalistes, le développement des cabinets de curiosité et des musées naturels, tout en évoquant la naissance de la photographie et du documentaire animalier, pour sûr vous remplirez les yeux en apprenant tout plein de choses. L'ouvrage s'intitule « Histoire de l'illustration naturaliste, des gravures de la Renaissance aux films d'aujourd'hui » par Valérie Chansigaud et c'est publié dans la collection « Les références » aux éditions Delachaux et Niesley. C'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delefosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.